conférences et débats.
Merci Jacques Poget. Ben, je suis ravie de vous retrouver si nombreux, toujours aussi nombreux. Merci de votre fidélité pour cette dernière rencontre avec les 6 auteurs nominés au prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2017. Je suis vraiment ravie de clore ce cycle avec Sylvia Herry pour son beau roman au titre vraiment superbe, Je suis mort un soir d'été. Alors vous allez, je sais que pour la plupart d'entre vous, ce sera une première rencontre avec Sylvia Herry. Je suis très heureuse que ça puisse se faire ici, voilà, dans ce cadre. Vous allez adorer Sylvia Herry. C'est une personnalité forte, lumineuse. Oui, je sais, elle se cache, mais bon, attendez, elle est prof. À mon avis, elle en a vu d'autres en termes d'audience, hein, donc. Non, vraiment, c'est une personnalité que j'adore, attachante, lumineuse, forte. Son livre est à la fois poignant. C'est évidemment de ce livre qui va être question. Donc, je vais pas là tout vous raconter l'intrigue. Je sais que certains sont venus ici parce qu'ils ont lu Je suis mort un soir d'été et qu'ils l'ont aimé, qu'ils voulaient rencontrer l'auteur derrière. Alors, Sylvia Herry est née à Genève d'une mère italienne, d'un père suisse-allemand qui sont rencontrés à Londres, d'ailleurs, donc il y a une sorte de joli brassage de langues. Sylvia Herry partage sa vie entre l'enseignement de l'italien et de l'histoire de l'art au collège Calvin à Genève et l'écriture. Elle a écrit plusieurs recueils de poésie, un recueil de nouvelles, et puis ce livre, Je suis mort un soir d'été, paru chez Bernard Campiche éditeur, qu'on salue au passage. Il est là dans la salle, je sais plus où, mais merci à vous Bernard Campiche d'accompagner votre auteur. Ce livre est sa première incursion dans le monde du roman. Alors, coup d'essai, coup de maître. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Sylvia Herry. Voilà. Sylvia Herry, bonjour, bienvenue.
Bonjour. Merci.
Bienvenue à Lausanne.
Là. Je suis très impressionnée d'être devant un public si nombreux parce que dans mes classes, je n'ai jamais plus que 20 ou 24
personnes. Bon, j'espère pour vous.
Donc c'est très impressionnant, mais je suis ravie d'être là.
D'accord. Bah, comment allez-vous?
Ça va.
Ouais. Alors que faites-vous d'habitude le samedi matin? Non, c'est en tant que Lausannois, nous on est tous ici au marché, autour de la place Saint-François.
Alors,
quelles sont vos habitudes de samedi matin habituellement quand on
vous
oblige pas à venir à Lausanne?
Depuis janvier, je cours avec deux amis, dont un est dans la salle. Et donc, si je n'étais pas ici, je serais probablement en train de courir.
Au bord du lac?
Au bord du lac, voilà.
D'accord, bon. J'espère que le soleil restera et que vous pourrez faire ça cet après-midi.
Non, cet après-midi, on va au musée de l'art brut.
D'accord.
Profite de notre escapade lausannoise.
D'accord. Ben, merci de nous avoir rejoints. Alors, Je suis mort un soir d'été est votre premier roman, même si ce n'est pas votre premier livre, il y en a eu 4 avant. Alors, Je suis mort un soir d'été raconte l'histoire de Pietro. Pietro est un architecte italo-suisse, il habite Genève, il est installé, sa vie semble réussie, beau parcours professionnel, un enfant, une femme, une vie de famille. Mais voilà, soudain, on l'appelle à Florence, sa vie natale, où sa sœur est en train de mourir. Or, cette sœur, c'était un secret. Il n'en avait parlé à personne. Et le voilà en train de se précipiter à Florence. Et soudain, toute sa vie d'avant, sa vie italienne, sa vie de l'enfance, de la jeunesse, remonte. Et c'est ce qu'il va, à travers votre plume, nous raconter. Alors, dans le fond, d'où est venue cette histoire « Je suis mort un soir d'été » Qui est Pietro?
Alors, cette histoire, elle m'est venue d'un ami qui parle très peu. Et qui m'a raconté, je dirais, le 5 ou le 10% de son histoire. Tout le reste, je l'ai reconstitué. Donc j'avais, comme ça, pour le début de ce roman, 2 ou 3 bribes d'une histoire assez poignante. Et puis, moi, j'avais envie de l'ordonner, peut-être de lui donner un sens, et puis, d'une certaine manière, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de rendre honneur à cette personne qui, elle, n'a jamais pu la raconter du début à la fin. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon sujet de roman.
Donc, pourquoi cette histoire, dans le fond, pourquoi ces difficultés de votre ami à raconter cette histoire? Qu'est-ce qu'il y avait au cœur? C'était d'où venait peut-être la honte ou le secret ou la douleur?
Alors, il faudrait lui poser la question directement, mais je pense que c'est très semblable à ce que vit le protagoniste de mon livre, c'est que ce Pietro, c'est une personne qui à un certain moment décide de mettre son passé de côté et de recommencer une nouvelle vie. Hein, c'est une façon pour lui de survivre à quelque chose qui est beaucoup trop douloureux et qui l'étouffe d'une certaine manière. Et je pense que la personne qui m'a raconté ces bribes, à un certain moment, pour pouvoir simplement survivre, a fait le choix de la fuite, a fait le choix du silence, a fait le choix de ne pas parler. Pas tellement. C'est pas un personnage malhonnête, c'est pas par malhonnêteté, mais tout à coup, il vit dans une sorte d'imposture en pensant. D'une certaine manière, se protéger. Et puis, les choses se passent évidemment pas exactement comme prévu.
On est toujours rattrapé, finalement, par ce qu'on souhaitait, dans le fond, fuir.
Oui, moi, je suis convaincue que le passé, on a beau essayer de le mettre sous la moquette, de l'étouffer, de le mettre de côté, de l'oublier d'une manière ou d'une autre... Il ressurgit. Ouais. Et c'est ce qui arrive à mon personnage dans ce livre.
Donc effectivement, ce jeune garçon, il voit soudain sa famille être déchirée, dans le fond, explosée, parce qu'il y a la maladie qui touche sa petite sœur et qui va faire que la famille, dans le fond, explose. La mère et le père se séparent, la mère s'occupe de la petite sœur, le père, dans le fond, reste avec le Pietro, qui grandit, puis qui, à un moment donné, devant la douleur, ou le dysfonctionnement de cette famille qui n'assume pas, qui n'arrive pas à faire face à la maladie de son deuxième enfant, il va quitter l'Italie et venir à Genève. Alors, dans le fond, y a, c'est quoi le moteur premier de cette histoire que vous aviez envie de raconter? C'est l'exil, c'est la honte d'avoir peut-être quitté sa famille et ne s'être pas lui-même peut-être occupé de cette petite sœur?
Je crois que c'est le moteur premier, c'était l'envie de réconcilier le frère avec la sœur, je dirais, parce que bon, je ne sais pas si vous avez tous lu le livre ou non, mais à la fin, Pietro va veiller sa sœur et puis, d'une certaine manière, rattrape en quelques jours toute la relation qu'ils n'ont pas eue pendant des années. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, j'ai oublié... Vous pouvez répéter la question, je me suis égarée.
Oui, quel était le moteur, dans le fond, profond de l'histoire?
Le moteur profond de l'histoire, c'était un personnage le choix d'un personnage qui fuit parce qu'il a peur et parce qu'à un certain moment, la souffrance devient trop grande. Comment, à un certain moment, moi, en tant qu'auteur, je pouvais lui offrir une forme de réconciliation avec son passé ou restaurer une relation qui a été mise à mal par le temps, par l'absence, par la séparation, essayer de lui en refabriquer une.
Donc c'est ce qui vous a touché dans cette histoire, c'est que les premières pages sont lumineuses, c'est l'enfant, c'est deux enfants qui jouent ensemble, ces quelques années paradisiaque, idéal, et puis soudain, effectivement, ce « je suis mort un soir d'été », c'est quand soudain, un soir d'été, le petit garçon, le jeune garçon, prend conscience que sa sœur est malade, et que pour lui, c'est une mort symbolique.
Tout à fait, mais c'est vrai aussi que dans le contexte de l'époque, parce que quand il prend conscience que ça... Enfin, prendre conscience, c'est un grand mot, parce qu'il est enfant, donc il va plutôt sentir que sa sœur est malade, il va se rendre compte que... C'est pas comme avant, que le père et la mère...
On est dans les années 50,
voilà,
à Florence.
Voilà, on est dans les années 50 à Florence. Donc évidemment, l'enfant, il n'a pas une perception rationnelle avec laquelle il va pouvoir expliquer de quoi souffre sa sœur, qu'est-ce qui lui arrive exactement. Ce qu'il va faire, c'est sentir que le contexte familial n'est plus le même, se rendre compte que sa sœur, qui pouvait jouer avec lui auparavant, ou qui répondait quand il l'appelait, ne répond plus... Et en n'ayant pas les mots pour appréhender cela. Et puis les parents, de la même manière, alors eux sont adultes, donc ils ont une perception, disons, plus mature de la situation, mais eux non plus n'ont pas les mots, parce qu'à l'époque, cette maladie dont souffrait la sœur n'était pas connue ou très peu connue. Ce qui fait qu'eux aussi sont très impuissants face à la situation et ne peuvent que voir le déclin progressif de cette sœur qui, dans ses premières années de vie, était une enfant comme les autres et qui, tout à coup, va dépérir.
D'ailleurs, la maladie n'est nommée que tout à la fin et c'est toujours ce mot, la pieuvre.
Oui, alors justement, le
qui a utilisé
Pietro enfant pour parler à la fois de la maladie de sa sœur, mais aussi du délitement des liens familiaux, des conflits à la maison, a recours à une image qui est justement celle d'une pieuvre. Pourquoi une pieuvre? Alors d'abord parce que je me suis dit qu'un enfant de 6-7 ans qui habite en Toscane allait souvent à la mer, donc des pieuvres, il avait dû en voir. Ensuite, parce que la pieuvre, c'est quand même, enfin en tout cas pour moi, mais je pense pour d'autres, un animal visqueux avec des tentacules qui étouffent, enfin qui... quelque chose qu'on n'a pas très envie de serrer dans ses bras et puis qu'on voudrait plutôt voir écarter de nous. Et donc lui, pour parler de ce qu'il pressent, il s'imagine cette pieuvre contre laquelle il doit combattre et que parfois il arrive à réduire au silence et à certains autres moments, c'est elle qui reprend le dessus et il se sent complètement prisonnier de ses tentacules, je dirais.
Ouais. Alors, comment, dans le fond, alors vous avez parlé plusieurs fois. Comment vous avez travaillé? Vous avez parlé plusieurs fois avec cet ami, essayé d'en savoir plus, ou vous êtes contenté des quelques bribes, et puis ensuite, ben voilà, vous avez utilisé évidemment vos l'imagination.
Alors, le faire parler, c'était mission impossible, donc je me suis contentée des bribes. Je pense que ça m'allait bien aussi parce que ça me permettait à moi d'avoir aussi la liberté de construire autour, de romancer. Et puis ensuite, alors moi je travaille de manière assez peu... comment dire ça? Je cherche le terme. C'est pas très cadré quand j'écris. Donc j'avais, dans ma tête, j'avais la première phrase qui est celle du titre. Je suis mort un soir d'été et puis la dernière. Ça, c'est venu très vite. Et puis ensuite,
je m'en souviens plus.
C'est un arc-en-ciel que je vois,
voilà.
La dernière.
Lisez-nous la dernière phrase, enfin les deux.
Donc bon, la première, c'est celle du titre. Je ne sais pas si elle est très longue. Non. Donc la première, c'est « Je suis mort un soir d'été ». Et la phrase conclusive, c'est « Je regarde une dernière fois par la fenêtre de ta chambre, à travers la vitre embuée de gouttes, c'est un arc-en-ciel que je vois. »
Donc entre ces deux...
Entre ces deux, il y avait une sorte de...
Des allers-retours entre le passé et le présent, entre la Suisse et l'Italie.
Tout à fait. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est justement d'avoir l'impression que j'ai le départ, j'ai l'arrivée, et puis entre les deux, il y a tout un chemin à parcourir et qui se construit au fur et à mesure. Donc j'ai quelques idées, quelques traces, mais j'aime bien avoir l'opportunité de... Voilà, de tracer un chemin, parfois c'est une droite, parfois c'est une courbe, parfois c'est ça virevolte, etc. Et, sans avoir une structure extrêmement figée. Voilà.
Ouais. Alors, du coup, on trouve dans ce livre des thèmes comme l'exil. Est-ce qu'avec des parents qui habitent à Genève tout en n'y étant pas nés, du coup, vous avez aussi puisé dans votre l'expérience de ce qu'il y avait autour de vous comme,
Alors, j'ai deux ou trois anecdotes que m'avait raconté ma maman, donc qui est italienne, quand elle est arrivée à Genève, justement, qu'elle s'est mariée avec mon père, qui est suisse-allemand, et qui se parlait encore en anglais, parce que, comme l'a dit Isabelle Facconi tout à l'heure, ils se sont rencontrés à Londres, enfin, c'est un peu compliqué. Et elle me racontait que... Alors ça, je ne l'ai pas utilisé directement, mais je trouve que ça rend bien compte du climat qu'on pouvait avoir à Genève ou en Suisse dans ces années-là. Que, par exemple, elle avait affiché des dessins que j'avais fait à l'école quand j'étais petite sur la porte du palier, et que la voisine était venue sonner en lui disant qu'en Suisse, on n'affichait quand même pas les dessins des enfants sur la porte.
Ah oui, genre le frigo, ça va, voilà. Mais la porte d'entrée, pas.
Ou alors, voilà. Je ne sais pas si elle était avec des talons, la voisine était venue sonner en lui expliquant qu'en Suisse, il fallait mettre des pantoufles, ouais. Parce que ça faisait trop de bruit. Enfin, c'est des anecdotes comme ça. Après, je suis allée rechercher, j'ai retravaillé, mais c'est... Voilà, c'est,
oui, non, mais ça se passe qu'à Genève. Hein.
Voilà. Non. Alors ouais, après, évidemment, ouais. J'ai forcé le trait, j'ai fait quelques recherches, mais...
Et alors, l'ami d'où est partie l'histoire, finalement, l'avez-vous tenu au courant de l'avancée du roman? Qu'a-t-il pensé?
Oui, alors
du
livre final, je lui ai fait lire, hein, parce que je n'aurais rien fait sans son accord, évidemment. Il a été ravi. Donc ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs, maintenant, il le dit même qu'il y a un livre sur son histoire. Donc je trouve que le...
Même si, dans le fond, vous avez dû vous en éloigner extrêmement. Enfin,
oui, puisque... mais paradoxalement, il m'a dit, écoute, je t'ai presque rien raconté, mais tout ça est très juste. Donc moi, ça, en tant qu'écrivain, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression au moins d'avoir réussi à écrire le livre dans l'émotion juste, ou en tout cas dans quelque chose qui ressemblait à ce que lui a vécu. Donc ça, pour moi, ça a été je crois que ça a été le plus beau cadeau, ça a été celui-ci, hein, d'avoir cette personne qui me disait, écoute, c'est incroyable, je t'ai presque rien raconté.
Mais quand et t'as tout compris.
Voilà, ouais. Quand tu racontes les discussions en famille, c'était exactement ça. Voilà, ça m'a fait, je crois que ça c'est ce qui m'a le plus touchée.
Alors Pietro, évidemment, ce qui est frappant, c'est qu'une fois adulte, lui-même a une peur, est terrifié à l'idée de devenir père lui-même, parce qu'il a évidemment très peur que l'enfant qu'il mettrait au monde soit atteint de cette même maladie. Donc ça en fait un père presque incapable de jouer avec son enfant, qui observe son bébé mois après mois, année après année, en se disant, mais peut-être qu'il présente les symptômes que ma petite sœur a présenté. Et on sent que beaucoup d'empathie de votre part devant cet homme que son enfance a du coup complètement handicapé pour le reste de sa vie, d'un point de vue intime, vie familiale.
Mais je pense que c'est une sorte de personnage tragique qui a une malédiction, enfin qui croit avoir une malédiction qui lui pend au-dessus de la tête, parce que finalement ce qu'il faut dire aussi par rapport à la maladie, c'est qu'une dizaine d'années plus tard, on a réussi à la diagnostiquer et maintenant on sait la soigner. Ouais. Mais
d'ailleurs, elle a un nom.
Oui, ça s'appelle phénylcétonurie. Voilà. C'est une maladie rare, hein, mais qui maintenant est diagnostiquée dans les tout premiers tests qu'on fait aux enfants quand ils naissent. Donc il y a un protocole qui est mis en place et ces personnes peuvent vivre tout à fait normalement. Simplement, moi je crois que mon personnage vit avec cette malédiction et ce choc qu'il a en découvrant la maladie de sa sœur. Ça laisse des traces qui sont complètement indélébiles et qui le signent, quand bien même la réalité prouve le contraire. Et je pense que ça doit être assez fréquent. Enfin, moi, je m'imagine qu'étant confronté à ce genre de situation... On a beau lire des articles médicaux, on a beau entendre les médecins qui disent maintenant on peut le soigner, etc. Je pense qu'avec un choc initial de cette envergure, c'est difficile de croire la réalité. Je pense qu'on a plus tendance à croire son passé.
Et ce qui nous a marqué.
Oui, dans le fond.
Comment est-ce qu'on peut vivre toutes ces années dans une forme d'imposture, hein, c'est lui-même qui le dit, il cachait à tous ses proches, à sa femme même, le fait qu'il y avait quelque part en Florence, à Florence, une sœur, voilà, qui une partie de la famille. Donc il avait gommé totalement cette partie de sa vie. Comment est-ce qu'on peut vivre des décennies comme ça?
Alors on peut, ça j'en suis sûre, à mon avis mal, mais on peut. Mais parce que je pense qu'à un certain moment, c'est où je reste en Italie, dans le cas du personnage, et je crève, ou j'essaye de continuer à vivre, alors de manière un peu bancale, puisque voilà, il y a toute une partie de ma vie qui est occultée. Mais je pense qu'à un certain moment, là, ça relève de l'instinct de survie, tout simplement. Et la décision de fuir, de couper les ponts et de se refaire une existence en ayant l'impression de repartir à zéro, ce qui finalement est faux puisqu'il sera rattrapé justement par son passé, par ses souvenirs. Mais je pense que quand l'impact avec la douleur est trop fort, quand on a l'impression que si on reste, c'est au péril de notre vie, le choix de la fuite se justifie d'une certaine manière.
Et du secret, de l'espèce de chape de plomb qu'on met sur une partie de sa vie. Je veux oublier ma sœur malade, je veux oublier ma mère devenue presque folle, etc.
Oui, parce que je pense que la parole, alors peut-être que ça libère du secret, mais en même temps, ça fait circuler, ça fait aussi circuler, et ça débloque aussi toutes les émotions qui vont avec cet événement douloureux. Donc après, il faut aussi se confronter au regard des autres, à ce que vont dire les autres. Pour un personnage qui ne sait pas parler, enfin qui est un taiseux, c'est une entreprise de grande envergure.
Quel retour avez-vous eu sur ce livre ? Parce qu'effectivement, il met en branle des thèmes assez concernant l'exil, la famille, les secrets de famille, les relations entre frères et sœurs, les relations entre mère et fils. Qu'est-ce qui touche vos lecteurs avec ce livre ?
Alors, c'est très varié selon les lecteurs. Il y en a, ça ne les touche pas du tout. Il n'y a pas que des retours positifs. J'aimerais quand même dire la vérité. Il y en a qui sont touchés par la qualité poétique de l'écriture. Il y en a d'autres, surtout ceux qui ont des frères et sœurs qui étaient touchés. Alors moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc je ne sais pas comment c'est d'avoir un frère ou une sœur. Mais il y en a certains qui m'ont dit que la relation que le personnage avait avec sa sœur était, malgré le fait qu'il ne la voit pas pendant des années, c'était quand même une relation très forte et que ça leur rappelait la leur. Il y en a qui m'ont dit que c'était très triste, alors que moi je trouve que c'est triste, mais il y a quand même beaucoup de lumière, mais ça c'est mon point de vue. Enfin, j'ai eu des échos très varié, donc il n'y a pas une tendance qui se dégage.
Oui, oui. Vous-même êtes née effectivement à Genève, donc d'une mère italienne et d'un père suisse alémanique. Vous avez grandi en français, mais vous racontez souvent, je vous ai entendu raconter cette anecdote assez pleine de sens. La langue, le français, c'est la langue dans laquelle vous avez grandi en famille, mais qu'un jour, en entendant le répondeur téléphonique en appelant chez vous, vous êtes tombé sur le répondeur téléphonique de votre famille, et finalement, je crois que c'est votre mère qui laissait un message, effectivement avec un accent. Mais dans le fond, vous n'étiez pas rendu compte que vous grandissiez dans un français matiné d'italien, suisse allemand, qu'il y avait...
Je ne me suis pas du tout rendu compte, parce que... tant que j'habitais sous le même toit que mes parents, tout le monde se parlait français, puis je ne sais pas, en tout cas, moi, je n'entendais pas les accents. Quand je suis allée m'installer seule, et que j'ai appelé une fois chez mes parents, et c'était ma mère qui avait enregistré le message téléphonique, je me suis dit, tiens, c'est marrant, elle roule les airs. Et c'est là que je me suis rendu compte, vrai, elle est italienne, ils parlent tous les deux très bien le français, mais c'est vrai que ça devait être assez jargonneux chez nous, j'imagine.
Mais est-ce que c'était un choix de leur part de vous élever en français ? On aurait pu imaginer que votre mère vous parle en italien, votre père en suisse-allemand.
Alors, mon père a eu le veto de me parler suisse-allemand. Donc,
de la part de qui ?
ma maman n'était pas très, très encline à ce qu'il m'apprenne le suisse-allemand.
Mais donc entre eux se parlaient, s'ils se sont rencontrés à Londres, soit anglais,
Par anglais, parce que lui ne parlait pas l'italien, elle ne parlait pas le français. Ensuite, je dois dire, alors là j'ai une grande admiration pour ma mère qui, en venant en Suisse, a quand même appris le suisse-allemand par amour. Alors moi ça, je tiens à le relever, parce que c'est quand même une belle preuve de... Non, mais je suis absolument sérieuse. Ma mère parle, donc comprend très bien l'allemand et comprend aussi très bien le suisse-allemand, parce qu'elle voulait pouvoir communiquer avec ses beaux-parents. Mon père a appris l'italien. Et puis, on sait toujours parler en français, mais moi, l'italien, je le sais bien, parce que ma mère me parlait plutôt en français, mais j'allais tous les étés en Italie chez ma grand-mère, qui ne parlait qu'italien. Donc, je l'ai appris très vite. Au point que, une fois, j'y suis allée, quand j'avais 3 ou 4 ans, je suis revenue à Genève, je ne savais plus le français. Pendant 2 ou 3 mois... C'est-à-dire, je comprenais très bien, mais les mots sortaient en italien.
Oui. Alors, vous avez vécu une sorte de tour de Babel, comme ça, dans l'enfance. Est-ce que ça prédispose à l'amour des mots est-ce que c'est de ce genre de situation que sortent les écrivains?
Ou alors ça, je pense qu'ils peuvent sortir de beaucoup de situations différentes. Moi, je sais que j'aimais beaucoup lire, mais je lisais en français. Je ne sais pas si c'est lié à une langue en particulier, mais j'ai toujours beaucoup aimé lire. J'ai toujours beaucoup aimé me réfugier dans la fantaisie. Et puis, j'ai toujours aimé beaucoup plus écrire que parler. Bon, maintenant, avec le temps, je me soigne, ça va, j'arrive. Ouais. Mais voilà, j'étais pas du tout quelqu'un de la parole orale. Moi, j'étais heureuse si on me donnait...
Vous étiez plus à l'aise avec...
Oui. Non, ouais. Mais quelle horreur, l'école, où il fallait faire des exposés, ce genre de choses, j'aimais pas du tout. Ouais. Par contre, si on me donnait une feuille de papier, moi, j'étais ravie. Ouais.
Votre mère était enseignante hein?
Oui,
voilà. Votre père dans une entreprise, quel domaine?
C'était quoi? Il fabriquait des bouteilles en PET à l'époque.
D'accord. Voilà. Ouais. Quel genre d'enfance avez-vous eu?
Ah, une belle enfance. Moi, j'ai des. Je trouve l'enfance. Moi, j'ai des très bons souvenirs. Oui.
Vous rêviez à quoi plus tard?
Je voulais être chanteuse, moi. Ouais.
Chanteuse.
Oui, chanteuse.
Alors là, il faut parler, hein. Pour...
Oui, j'aime beaucoup chanter, voilà, ou bien, enfin, tout sauf enseignante, en réalité.
D'accord. Oui, voilà. Généralement, quand on est enfant, on ne veut pas faire comme...
Sinon, j'ai eu quoi Oui. Ou bien comédienne. Mais ça, je me suis rendue compte que ce n'était pas possible, parce que je n'étais pas très douée.
Et le chant, vous avez commencé... Le chant, vous avez poursuivi ce rêve un moment?
Le chant, je continue à chanter avec ma guitare, mais dans mon salon. Mais j'aime beaucoup ça.
Si j'avais su, je voudrais demander de l'apprendre.
Ah, j'aurais pu.
Petit à petit, vous êtes restée à Genève pour des études, des études de lettres. Donc clairement, là, il y avait déjà l'envie de rester dans le monde des livres que vous appréciez particulièrement.
Oui, alors ça, oui. Ça, c'était assez clair que la littérature, j'aimais ça et qu'écrire, j'aimais ça. Donc les lettres, c'était... Je crois que c'était la suite logique de ce que j'aimais déjà faire avant. Ce n'était pas une grande surprise, disons.
Enfant, vous étiez déjà... Vous vous promeniez avec... c'était journal intime, les carnets... Vous êtes le genre de fillette qui note des tas de petits bouts d'histoire.
Oui. J'écrivais des textes de chansons, justement, dans ma période où je voulais être chanteuse, ou des poèmes. J'avais des...
Oui. D'ailleurs, c'est une habitude que vous avez gardée.
Oui,
tout à fait. Je crois que vous êtes venue avec un objet qui est... savez, chaque auteur vient avec une musique et un objet. Et en entendant parler de carnet, je crois que c'est une habitude que vous avez gardée.
Ça, c'est pas un carnet qui vient de tomber. Mais... Donc, je me balade très souvent...
Donc vous êtes venue avec... qu'est-ce que c'est? Plein de petits carnets.
Oui, alors...
Petits, grands, peut-être on peut les lever comme ça.
Oui, je vais vous les montrer. Donc je me promène toujours dans mon sac au moins un carnet. Alors ça, c'est ceux des dernières années, dans lesquels je note à peu près tout ce qui me passe par la tête. Donc je vous disais...
Mais ils sont tous différents, donc...
Je disais que j'étais pas très systématique dans la structure de mes livres pour les carnets non plus. Donc mes proches savent qu'ils peuvent m'offrir des carnets. Donc j'en ai un où c'est écrit « Don't forget to write ».
Un tout petit verre.
Il y en a d'autres qui ont ce format-là. Celui-ci, ça c'est le dernier.
Alors là, il y en a par exemple un gros carnet très épais qui ressemble à un livre.
Et celui-ci, il est à double entrée, donc j'ai un côté pour la prose... Et puis, à l'envers de l'autre côté...
Les courses
Les courses. J'ai les courses, les rendez-vous aussi, mais de l'autre côté, j'ai la poésie. Donc, comme ça, celui-ci, je mets les deux dedans. Mais c'est vrai que je peux avoir dedans la liste des courses, des numéros de téléphone.
Donc, c'est vraiment au fur et à mesure. Et une fois que le carnet est terminé, vous en entamez un nouveau.
Non, parfois, j'en ai plusieurs en même temps. Et parfois, je redécouvre même certaines choses que j'ai notées, mais... Voilà.
Et donc vous les gardez tous, de temps en temps vous replongez pour retrouver des
notes. Oui, parce que je note beaucoup de choses et puis je laisse reposer souvent. Des fois je laisse reposer un mois, des fois c'est 6 mois, des fois c'est 1 année. Puis ensuite je reprends et parfois je me dis « Ah tiens, ça c'est bien » ou bien « Non, ça c'est nul, poubelle ». Et puis à partir de là, parfois il y a des choses qui émergent, qui me donnent l'impulsion pour me mettre à écrire. Mais c'est toujours de manière très organique, je veux dire, c'est pas tellement réfléchi. Je me lève pas un matin en me disant, voilà, j'ai écrit 3 recueils de poésie, j'ai écrit des nouvelles, maintenant j'entame le roman. Non, ça se passe pas comme ça, disons.
Alors ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'on a une bribe d'histoire et on se dit, ben, celui-là, ça va faire autre chose, hein.
Oui, alors moi, au départ, j'ai même pas la forme de ce que je vais écrire. Hein. Je commence, puis après, le sujet appelle la forme. Disons, ça se passe dans ce sens-là, c'est pas le contraire. Et tout à coup, au fur et à mesure que j'écris, la forme se clarifie aussi. Et puis, suivant le chemin que l'on emprunte, justement, ça va donner un roman ou un recueil de poésie ou un recueil de nouvelles. Mmh. Mais j'ai jamais... la forme, elle vient toujours en second lieu. Il y a d'abord, je ne sais pas comment dire, mais une sorte de processus qui se fait où c'est par un mot, par une phrase que ça m'amène à commencer. Et puis... la forme va s'imposer d'elle-même, d'une certaine manière.
Alors, qu'est-ce qui, quand même, malgré tout, était différent ? C'est votre premier roman, malgré tout. Hein. Vous avez publié un premier recueil de poèmes, c'était en 2010, « Balbutier l'absence » chez Samizdat. Ensuite, vous avez eu le prix des écrivains genevois pour un autre recueil de poèmes. Mmh. 2012, c'était « Mention fragile », voilà. Ensuite, des nouvelles, « Loin de soi », prix Georges Nicolle 2013. Donc, du coup, c'est aussi, d'ailleurs, « Loin de soi », ce recueil de nouvelles qui vous a lancé sur la scène littéraire, oui. Vous a lancé, donné un début de notoriété. Ensuite, Nouaison 2015, c'était de la prose poétique, hein, des textes courts. Puis là, ben voilà, on vous présente Je suis mort un soir d'été comme votre premier roman. Est-ce que ça a été différent d'écrire ce livre ? Est-ce que ça vous a donné envie de rester dans cette forme du roman ?
Est-ce que c'était différent ? Oui et non, j'ai envie de dire. C'était différent parce que il y a une continuité peut-être.
Il y a un personnage avec lequel on reste.
Voilà, avec laquelle on doit rester, un personnage qu'on suit, qui fait que peut-être, comment dire ça, il faut avoir un temps continu que j'avais plus l'année passée, par exemple, ou il y a 2 ans, et que cette année, par exemple, cette année, je pense que je vais faire que des fragments, parce que j'ai un...
Ah, vous aviez pris une année sabbatique, c'est ça, pour écrire ?
Oui, non, mais c'était pas pour écrire je sais pas, il s'est trouvé que j'avais tout à coup des plages de libre où je pouvais rester avec ce personnage et d'une certaine manière le prendre... Voilà, on pouvait cheminer ensemble sur un certain temps... et puis là, il y avait quand même une histoire que je voulais raconter. Après, avec la temporalité que je vis cette année, par exemple, je sais que j'aurais plutôt... Il va sortir plutôt des textes courts et denses, parce que en ce moment, je suis toujours entrecoupée. Donc d'être avec un personnage et puis de... cheminer avec lui. Alors, je suis actuellement sur le projet d'un roman, mais pour l'instant, c'est extrêmement fragmentaire. Alors, peut-être que ce sera une forme de roman fragment, j'ai aucune idée, mais je vois que j'arrive pas à... Mon personnage et moi, on n'arrive pas à être suffisamment ensemble, j'ai envie de dire, pour avancer. Oui. Mais ce qui n'exclut pas que je le retrouve plus tard.
Alors, pour revenir à... Quand vous avez fait des lettres, la plupart du temps, on dit aux étudiants qui commencent les lettres, ben, tu seras enseignant, mon fils ou ma fille. Enfin, est-ce que c'était dans cette optique-là ou c'était par... simple intérêt de base pour la matière ?
Non, c'était vraiment l'intérêt. Parce que moi, s'il y a une chose que je ne souhaitais pas faire... c'était d'être prof, vraiment.
C'est pas au début des études que ça s'est retourné, ça ?
Non, du tout. Alors, moi, c'était parce que j'aimais lire, j'aimais comprendre, j'aimais étudier, etc. Par contre, alors, ce que je dois dire, c'est qu'en étudiant les lettres et la littérature, ça m'a pas beaucoup aidé à développer ma pratique d'écriture, parce qu'à force d'être confrontée...
D'écriture créative, quoi,
voilà,
personnelle.
Voilà, au génie des autres et au modèle littéraire, moi, je me suis sentie complètement oppressée. Quand je voyais ces bibliothèques, je me disais, mon Dieu, mais moi, avec mes 3 petits poèmes dans un carnet, je vais faire quoi ? Donc, je faisais rien, j'écris.
Donc, c'était une période où vous ne titrez très peu dans l'écriture personnelle.
Ah oui, alors je savais, je pouvais vous faire un compte-rendu exceptionnel sur je ne sais quel auteur, ça je savais très bien faire, j'aimais analyser, etc. Puis on avait des profs qui nous disaient que de toute façon, voilà, tout avait déjà été écrit, les grands génies étaient déjà passés. Bon, alors.
D'ailleurs, la plupart du temps, à l'université, on n'étudie pas d'auteurs contemporains, donc c'est comme s'ils n'existaient pas.
On n'était pas du tout dans les auteurs contemporains, donc on se dit, bon, ben voilà. Et puis après, alors par pur hasard, j'ai commencé à faire des remplacements au collège. Et je me suis dit, mais tiens, je suis pas si mauvaise en tant que prof, ça se passe bien. Et puis, voilà, après, j'ai persévéré là-dedans. Et ça a été, mais alors, la libération quand je suis allée au collège, qui est l'équivalent du gymnase dans le canton de Vaud. Parce que là, il n'y avait plus du tout non plus cette notion de hiérarchie très universitaire, où vous avez quand même un prof, il faut le respecter. S'il prend une décision, il faut plutôt dire oui et pas non. Puis moi, j'étais au département d'italien, c'était quand même bien hiérarchisé. Ils aimaient quand même bien qu'on leur porte leurs serviettes. Puis moi, je ne suis pas du tout... Enfin, comme ça.
De qui portiez-vous la serviette ?
Non, moi je ne portais pas, mais on sentait que le professeur ordinaire aurait été content parce qu'il y avait plein d'étudiants italiens qui venaient faire des échanges, qui étaient dans cette culture, ah, professeur, mais je vous porte votre serviette, je vous fais vos photocopies. Oui. Moi, je comprenais pas. Je comprenais pas, donc je faisais pas exprès, mais il me disait, tu fais mes photocopies ? Je disais, ben non, vous pouvez les faire vous-même. Enfin, j'étais vraiment...
En bonne féministe suisse.
Je sais pas, une approche beaucoup plus suisse, avec pas tellement ce sentiment de hiérarchie. Donc, quand je suis arrivée justement au gymnase, j'étais une parmi d'autres.
Et les élèves ne se précipitaient pas pour porter votre serviette ?
Non, et c'était très bien. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà... Voilà, je me suis sentie autorisée à pouvoir...
Bon, ça devait être une drôle de surprise de se rendre compte que ce métier que vous ne vouliez surtout pas faire, finalement, vous plaisait passablement.
Oui, mais moi, j'ai un gros problème... Ça doit être ma fantaisie qui me joue des tours, c'est-à-dire que j'ai un gros problème d'adaptation entre ce que j'imagine et la réalité. Alors, pour écrire des livres, ça va bien, mais très souvent, les choses que je souhaite... Par exemple, moi, je souhaitais devenir assistante à l'université, je l'ai été. Bah, du moment où j'ai eu le poste et j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça, ça me plaît pas du tout. Alors que là, pour le collège, c'était ce que je voulais pas faire. Finalement, je suis plutôt très contente. Donc, je crois que ma fantaisie doit être mise au service de l'écriture. Ouais. Et puis, pour le reste...
Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'enseignement ? Le contact, l'échange avec des adolescents, le fait de pouvoir transmettre des passions, puisque vous enseignez l'histoire de l'art et l'italien, donc qui sont des intérêts personnels.
Alors, quand c'est possible, parce que ça ne l'est pas toujours, c'est d'essayer de transmettre le goût de la lecture... C'est pas toujours évident. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'élèves qui n'aiment pas lire. Donc ça, c'est un sacré défi. Mmh.
Est-ce qu'ils vous lisent ?
Ah non, ça, j'en parle pas. Donc si.
Mais ce n'est pas un pseudonyme.
Ah non, c'est moi, c'est tout à fait moi. Mais donc... je n'écris pas sous pseudonyme, mais je sépare. Donc il y a mon activité d'enseignante et ma passion d'écrivain, on va dire ça comme ça. S'ils viennent me dire qu'ils ont lu, ou bien sûr que j'en parle, mais parce que sinon c'est « Ah madame, vous écrivez, puis je ne peux pas donner mon cours. Elle est jolie la photo, et puis est-ce que ça paye bien, etc. etc. »
Bah, ça peut les mener vers l'écriture d'une autre manière.
Disons ça, sauf pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui n'essayent pas de me détourner du cours que je dois donner. J'en discute volontiers, mais sinon... J'en parle pas beaucoup. Et sinon, l'autre... moi, ce que j'aime aussi dans l'enseignement, c'est qu'on vieillit, mais on a l'impression qu'on reste jeune, parce qu'on est toujours confronté à des jeunes. Et on voit pas... Alors, le décalage...
En fait, c'est comme si le temps s'arrêtait. Oui. Et ça donne aussi... Chaque année, on recommence la même année.
Voilà. Et puis, eux restent jeunes, nous pas. Mais on vit un peu dans cette illusion qu'à force de les côtoyer, on le reste aussi. Et ça donne malgré tout, malgré les mauvais côtés du métier, ça, y a quand même beaucoup d'énergie dans la jeunesse, donc ça, ça nourrit d'une certaine manière.
Mauvais côté, vous voulez nous en dire plus ?
Le mauvais côté, c'est qu'il y a des tas de corrections, il y a des tas d'élèves qui n'aiment pas lire, il y en a certains qui ne se rendent pas compte à quel point c'est intelligent ce que je leur dis, ils s'en foutent complètement. Voilà, ça c'est le mauvais côté. Et des fois, je leur dis, mais vous vous rendrez, vous rendez compte, cette analyse de texte, là, ça vous embête, mais c'est intelligent. Parce que, mais c'est comme ça. Mais il y en a d'autres aussi qui profitent. Voilà.
Et votre maman, quand elle vous a vu devenir enseignante, ça lui a fait plaisir?
Ma maman, elle est assez discrète, donc elle s'exprime pas trop, je suppose. Je pense que mes parents étaient contents que j'ai un métier stable, on va dire, et que je ne leur dise pas que j'allais vivre seulement de ma plume. Là, ils auraient été plus inquiets, j'imagine. Mais ils sont assez discrets, ils n'interviennent pas beaucoup dans mes choix. Donc,
Vous êtes venue avec une très jolie chanson, je pense que tout le monde connaît, et vous nous expliquerez après qu'on l'aille écouter pourquoi celle-ci.
Je suis revenue dans cette ville loin perdue, j'avais passé mon enfance. J'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et je retrouvais comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant. Comme au passé, j'ai marché les temples brûlantes, croyantes étouffées sous mes pas. Des voix du passé qui nous hantent, et reflètent sonner le glas.
Merci. Alors bon, c'est une chose, on ne peut pas la couper, hein. On pourrait écouter toute la journée du barbarage. Merci Sylvia pour ce beau moment. Alors c'est triste, mais alors pourquoi mon enfance?
Alors, pour deux raisons. La première, c'est que j'adore Barbara. Ce que j'aime, c'est cette qualité qui est là quand elle chante, d'être toujours sur le fil entre la voix et le silence. Et on dirait qu'elle... que chaque fois qu'elle chante, elle est... ça pourrait être sa dernière chanson. Donc ça j'aime beaucoup. Moi, je l'ai choisie justement parce que je pensais à la vie de mon protagoniste, justement, où là, elle évoque des souvenirs de son enfance, certains extrêmement lumineux, d'autres très douloureux. Et je trouvais que ça faisait justement écho quand elle dit justement parmi les souvenirs ceux de l'enfant ce sont les pires, je pensais à mon protagoniste qui effectivement a ce genre de souvenirs terribles, donc je trouvais qu'il y avait un lien à faire entre la voix de Barbara et puis celle de mon protagoniste.
Ouais. On entre aussi là dans la magie de l'écriture et du métier d'écrivain, puisque votre enfance voilà, a été heureuse. C'est souvent ce que, d'ailleurs, les enfants ou les ados posent souvent cette question. Mais comment est-ce qu'on peut écrire sur quelque chose qu'on n'a pas vécu soi-même? Alors, c'est à la fois la question la plus naïve, mais en même temps la plus mystérieuse. Parlez-nous un peu de cette petite fabrique à écriture qu'est la vôtre. Comment on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez à votre table? Enfin, je sais pas d'ailleurs. Enfin, vous ouvrez un petit carnet, je sais pas, dans le bus, au café, chez vous, et vous mettez à écrire une histoire, celle des autres, peut-être un peu la vôtre. Qu'est-ce que c'est qu'écrire?
Alors ça, c'est une vaste question.
Déjà, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous... Est-ce que vous êtes vous jubilez? Vous vous sentez libéré? C'est de l'émotion?
Moi, je crois que y a une... c'est difficile à décrire avec des mots, mais il y a une sorte d'état dans lequel on peut être où on prend contact avec des émotions profondes qui peuvent rejoindre celles qui habitent le protagoniste, celle qui est son émotion première. Alors là, moi, pour mon personnage, quand je l'avais imaginé, je me suis dit, c'est un personnage qui fuit parce qu'il a peur. Donc moi, pour que ce personnage, il ait l'air crédible ou pour le moins authentique, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en lien... mon émotion de peur à moi, ou la sienne avec la mienne. Et il y a un certain moment où, je ne sais pas comment dire, c'est comme dans une musique, ça se rencontre, ça joue ensemble, et à partir du moment où je sens que cette émotion de départ-là, elle est juste, je peux démarrer. Ça, c'était pour le roman. Pour la poésie... je ne sais pas, c'est comme un moment où je suis dans une bulle et où il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. C'est complètement indépendant du contexte dans lequel je suis, c'est-à-dire que je peux être chez moi à ma table, ou bien dans un train, ou bien dans un bistrot. S'il y a cette espèce de, je ne sais pas ce que c'est, conscience de soi, conscience du monde, et ce... je sais pas comment dire, ce lien-là qui se crée, je sais que pour moi, ça peut démarrer. Puis ouais. Après, évidemment, ça se retravaille, on revient, mais...
Vous avez une fois expliqué, écrire m'ouvre un champ de liberté immense.
Ça, c'est vrai aussi.
C'est ça, c'est qu'on y trouve la liberté dans l'écriture, qu'on trouve peut-être pas le reste du temps.
Il y a aussi des grands moments de... Il y a des grands moments de solitude, de désarroi, etc. Mais moi, l'impression que j'ai... Très souvent, c'est vraiment d'avoir un immense espace, comme quand on traverse, je sais pas, un champ de neige dans lequel personne n'a encore marché. Et puis moi, avec mon encre, avec ma plume, avec les touches de mon clavier, je vais tracer un sillon là-dedans. Et je crois que c'est vraiment l'endroit, la page ou l'écriture, je sais pas, c'est le territoire où je me sens vraiment le plus libre.
Et bien, livre après livre, vous construisez une reconnaissance d'auteur. Le fait d'exister aujourd'hui en Suisse romande comme écrivain, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne envie, évidemment, de poursuivre?
Alors
qu'est-ce que ça représente?
Quelle que soit la reconnaissance, je sais que je poursuivrai. Alors bien sûr, s'il y a une reconnaissance, c'est mieux parce que ça stimule, ça donne de la visibilité, ça encourage aussi. Mais moi, je crois que, enfin, si j'écris, c'est parce que je peux pas faire autrement. Donc, quelle que soit la reconnaissance, pour moi, je crois que c'est pas vraiment, c'est quelque chose qui s'impose. Hein, j'en ai besoin. Donc, je sais que je continuerai. Je sais pas à quel rythme, etc. Mais je sais que c'est toujours là et que pour moi, c'est un point d'ancrage, même si c'est un point d'ancrage qui est très, qui est peut-être virtuel, qui est dans la fantaisie. Donc, je sais que c'est là et je sais que ça va pas me quitter. Voilà.
Ouais. On est dans une bibliothèque ici. À quoi ressemble votre bibliothèque? Quels sont les livres que vous relisez? Quels sont les deux, trois auteurs qui... Voilà,
Il y en a tellement qui
sont un peu votre panthéon.
C'est difficile.
Alors, il y a ceux qu'on abandonne après quelques années, parce que finalement, Mais aujourd'hui.
Alors, là, aujourd'hui, je suis en train de relire avec grand bonheur La vie devant soi de Romain Gary. Mais je me promène. Hein, donc là, actuellement, je relis aussi. Enfin, je suis beaucoup dans Maïlis de Kerangal. J'aime beaucoup cette écriture. Mais je peux tout à fait, la semaine prochaine, relire un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Chapuis.
Et en deux titres qui auraient marqué, on a tous quelques livres qui ont marqué notre jeunesse, notre adolescence, et
alors,
que parfois il faut pas relire parce que on y trouve plus qu'on y a trouvé, mais
qui a marqué mon adolescence, je crois qu'il y a Les Fleurs du Mal de Baudelaire, ça c'est sûr, et puis Camus, La Chute, voilà, ça c'est les. Mais après, il y en a énormément d'autres. C'est difficile de répondre à cette question.
Ben, je vous propose qu'on poursuive quelques minutes la discussion avec votre public, voilà, vos lecteurs, pour des questions, des remarques sur ce qui vient d'être dit. Alors, qui souhaite se lancer et poursuivre la discussion avec Sylvia Herry. Madame.
C'est une bonne question.
Votre but, c'était au début de l'interview que vous vouliez réconcilier frères et sœurs. Mais en fait, on ne voit pas tellement ce que vous vouliez faire avec. Moi, il me semble qu'il fallait aussi réconcilier avec le départ de sa maman, quoi, qui était traumatique. J'arrivais plus très bien à la fin de savoir.
Oui, je comprends, vous n'êtes pas la première qui me pose cette question. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, après, je ne sais pas si c'est réussi ou non, hein, ça, c'est... mais moi, je voulais surtout m'attacher à suivre la parabole du protagoniste. Donc, c'était vraiment le suivre, lui, dans son parcours. Et le fait est qu'à un certain moment, en partant, il quitte aussi sa mère et il la laisse là où elle est. Donc, je souhaitais pas revenir sur ce drame-là, mais c'est vrai qu'il y a un double drame. Puis l'autre chose que je me suis dite aussi, parce que c'est une histoire qui est dramatique, justement, à plusieurs égards, mais je me suis dit, mon Dieu, mais alors, s'il y a le drame avec la sœur, il y a le drame avec la maman, il y aurait encore celui avec le père, hein, puisque pour un premier roman, je me suis dit, mais je vais prendre un fil et je vais tirer celui-là. Et donc je me suis cantonnée à cette idée-là. Après, je comprends, j'entends tout à fait ce que vous me dites. Vous êtes, oui, c'est vrai. Et en même temps, je me suis dit, mais il va falloir que j'introduise encore une gamme tragique dans une histoire qui l'est déjà. Est-ce que ça va pas devenir trop lourd, trop douloureux? Trop impudique entre guillemets, donc j'ai préféré laisser ça en sourdine.
Et juste la révélation, parce qu'on a le nom de la maladie qui est connue de nos jours, hein, mais qui à l'époque on ne connaissait pas, elle vient aussi très tard.
Oui.
Et moi ça m'a un peu énervée parce que je cherchais qu'est-ce que ça pouvait bien être.
C'est juste ça.
Ah, moi, c'est l'inverse. Je me serais presque passée du nom.
Oui, moi, je trouvais aussi que ce n'était pas très important. Non, alors moi, justement, je voulais... C'était assez secondaire de donner le nom de la maladie. Je l'ai fait en peut-être par souci de clarté, on va dire. Mais je voulais quand même... J'avais pas envie de donner les indices tout de suite. Donc, et puis je trouvais qu'il fallait, comme c'est quand même un personnage qui prend conscience très tard de ce qu'est son passé finalement et qu'il revit les 3 ou 4 jours pendant lesquels il est au chevet de sa sœur, je me suis dit aussi que dans son cheminement à lui, la révélation, elle devait arriver tard. Et il pouvait pas vendre comme ça la mèche dès le départ, parce qu'au départ, c'est un personnage qui se connaît très mal et qui a enseveli son passé. Donc, les révélations, elles devaient se faire de manière extrêmement progressive au fur et à mesure qu'il se réappropriait certains pans de son passé. Mais je comprends tout à fait.
Une autre question, monsieur Jacques.
Par rapport au gros bémol que votre lectrice vient de soulever, qu'a dit le véritable protagoniste lorsqu'il a lu le livre par rapport à sa mère?
Est-ce qu'il
a dit que l'atmosphère de la famille était très bien avant Isaac? Est-ce qu'il a eu un...
Il m'a remercié de ne pas en avoir trop fait, justement, et il m'a dit, si tu avais raconté la vraie histoire, qui est 10 fois pire que celle que je vous raconte là, on t'aurait pas cru. Parce qu'on on t'aurait reproché de faire soit de l'hypersentimentalisme, soit quelque chose de trop trash. Ouais. Donc, lui, il est... Enfin, de ce point de vue-là, je crois qu'il est... il est content du résultat. Ouais. Et ça me fait plaisir.
Mais est-ce que lui a pu se rapprocher, se réconcilier, sœur, mère?
Non. Non, la mère, oui. Mais la sœur, non, sa sœur est décédée et il n'est pas allé à l'enterrement. Donc moi, c'était aussi... Je me suis dit, moi, puisque j'ai ce pouvoir-là de pouvoir écrire, je peux réécrire cette histoire en essayant de lui donner une fin un peu moins... je ne sais pas comment dire ça, un peu moins triste, un peu moins tragique, parce qu'elle ne l'est, dure, voilà.
Voilà. Moi, j'ai une compréhension un peu différente, parce que, dans le fond, l'attachement de cette famille est dû au fait que le père ne reconnaissait pas la maladie de cet enfant, et c'est lui qui a fait éclater toute la famille, parce que il aurait mis cet enfant en asile, la mère ne voulait pas, donc la mère part avec l'enfant pour la protéger d'être internée dans une institution, et le fils se retrouve seul et part aussi. Donc tout l'éclatement vient cause un peu de la lâcheté du père.
Je ne sais pas, parce que moi il me semble que, quel que soit le type de maladie, quand on a un enfant malade, ça met vraiment la famille à mal. Et puis après, il y a 2 cas de figure. C'est soit la famille se soude autour de la maladie, soit la famille éclate. Et puis là, c'est un cas parmi d'autres d'éclatement. Après, certainement, le père a sa part de responsabilité, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le cataclysme que ça peut être, le fait d'avoir un enfant malade.
Monsieur.
Quand vous écrivez, là, vous vous mettez à la place d'un homme, est-ce que vous arrivez à écrire des choses tristes quand vous êtes joyeuse ou l'inverse? Et est-ce que vous faites lire avant d'avoir terminé?
Alors, la première question, c'est si j'arrive à me mettre à la place d'un homme en écrivant?
Non,
c'est triste quand je suis joyeuse. Mais quand j'écris des choses tristes, je ne suis pas joyeuse, c'est-à-dire que je suis dans une certaine émotion qui se rapproche de la tristesse, hein. Mais c'est un moment qui est à part. Après, ça ne va pas m'empêcher, quand je suis sortie de ma phase d'écriture, d'être joyeuse. Hein. Je suis navrée, je perds le fil.
L'autre question, c'est que vous écrivez tout. Et vous faites lire après, ou bien ça vous arrive de faire lire des feuillets pendant que...
Ça m'arrive de faire lire des feuillets pendant que j'écris, et je fais systématiquement lire après aussi à une ou deux personnes proches qui me descendent ou qui me disent ça va pas du tout. Oui, je fais...
Donc, après, quand vous avez tout fini,
quand j'ai tout... Des fois, c'est... En tout cas, quand j'ai tout fini, et puis parfois, quand une partie est finie, pour voir... et puis je me relis aussi beaucoup à haute voix, parce que j'entends mieux si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Donc très souvent je parle à voix haute, je lis à voix haute pour m'en rendre compte de cela. Monsieur ?
fait la dimension éventuellement génétique de la maladie fait partie du drame non dit, parce qu'en fait il échappe à la maladie, il échappe au drame familial, il se retrouve ici, mais avec la possibilité de transmettre éventuellement cette maladie à ses enfants.
Oui.
Parce que c'est au moment où il découvre peut-être qu'il n'est pas porteur, qu'il peut aller retrouver l'origine.
Alors, je ne suis pas posé la question.
Les multiples drames qui sont là, il y a peut-être ce drame très contemporain.
Alors, c'est sûr que la crainte du protagoniste, c'est d'être porteur et de transmettre la maladie. Par contre, moi, j'ai imaginé quelqu'un qui est plutôt dans le déni, donc qui n'ira pas faire les tests pour savoir si oui ou non il est porteur. Une autre question, remarque ?